comment j'y vais. Hein. Voilà, eh bien, bienvenue à vous, chers amis étudiants, enseignants et membres du personnel du Centre Sèvres, pour cette nouvelle année académique 2018-2019. J'espère que vous avez passé un bon été, reposant, fructueux, et que vous arrivez plein d'énergie et plein d'envie aussi pour cette année qui commence. Je pense tout spécialement à ceux d'entre vous qui démarrent au Centre Sèvres, qui débarquent au Centre Sèvres, aussi bien d'ailleurs les étudiants que les enseignants. Les étudiants, je sais que se retrouver ainsi dans un lieu d'étude que l'on ne connaît pas n'est jamais facile. Et vous allez sans doute avoir besoin de quelques mois avant de vous sentir vraiment chez vous, surtout si vous venez d'un pays lointain et si le français n'est pas votre langue maternelle. En tout cas, quand vous serez dans la déprime et que vous direz « Je comprends rien du tout à ce qu'on me demande ici », eh bien, ne désespérez pas. Sachez que presque tout le monde est passé par là. Et puis, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez tous les autres étudiants avec qui parler. Vous avez votre tuteur, pour ceux qui sont en premier cycle. Vous avez l'équipe du secrétariat qui peut vous aider pour toutes les questions administratives. Vous avez votre directeur de cycle, comme aussi un interlocuteur. Et puis, vous savez, je pense que vous n'êtes pas ici pour réussir je ne sais quoi, mais pour progresser dans l'intelligence de la foi et du monde. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Bienvenue également aux enseignants nouveaux qui nous rejoignent à partir de cette rentrée. Nous avons la grande joie d'accueillir cette année 3 nouveaux enseignants. Plus précisément, 3 nouvelles enseignantes. Nous avons eu ces dernières années 3 jeunes professeurs jésuites, Grégoire Catin, Pierre Molinier, Erwan Chetty. Donc la parité est respectée. Voilà. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà Agnès Desmazières. Voilà. Donc Agnès est déjà intervenue l'année dernière dans la maison où elle a donné cours. Et en plus de son enseignement cette année, elle est l'adjointe de Patrick Goujon, le directeur du premier cycle. Nous accueillons aussi Clairanne Baudin. Donc Clairanne termine sa thèse. Elle va donner plusieurs cours et un séminaire sur Rahner notamment. Et puis, nous accueillons aussi Anne-Cathy Graber. Anne-Cathy est du Chemin Neuf. Et avec Michel Fédou, elle sera co-titulaire de la chaire de théologie écuménique qui est fondée à partir de cette année. Et elle donnera aussi d'autres enseignements ici dans la maison. Anne-Cathy Graber est pasteur de l'église Ménonite et théologienne, et nous sommes très heureux de l'accueillir parmi les enseignants du Centre Sèvres. La question de l'unité des églises, en effet, n'est pas une question annexe qui serait réservée aux passionnés de l'écuménisme. Elle est tout simplement cruciale pour l'annonce de la bonne nouvelle. Comment pouvons-nous annoncer la réconciliation en Christ si nous restons divisés, si nous restons méfiants les uns envers les autres, encombrés par des préjugés et des jugements trop rapides? En instituant cette chaire de théologie écuménique et en embauchant Anne-Cathy Graber parmi les enseignants du Centre Sèvres, c'est une manière de reconnaître que tous, aussi bien les étudiants que les enseignants, nous avons encore à bouger sur cette question de l'unité des Églises. Alors, je vous invite tous, le soir du jeudi 11 octobre, pour l'inauguration solennelle de cette chaire de théologie écuménique. Le thème de cette soirée sera le dialogue écuménique, enjeu pour la théologie chrétienne. Autrement dit, on pourrait se dire en quoi le souci œcuménique nous fait revisiter la théologie, nous la fait aborder autrement. Interviendront le pasteur Frédéric Chavel de l'Institut protestant de théologie et Catherine Schirk-Lucas de l'Institut supérieur d'études œcuméniques, l'ISEO, de l'Institut catholique de Paris. Voilà. Parmi les autres nouvelles concernant celles et ceux qui travaillent au Centre Sèvres, vous savez, je pense, que Sylvie Mourgue, qui a fait le ménage dans la maison pendant plus de 15 ans, est partie à la retraite en juin dernier. Les membres du personnel lui ont fait une très belle petite fête, et je crois qu'elle en a été ravie. Pour remplacer Sylvie, vous verrez dans la maison, si vous arrivez tôt le matin, M. Koité Mamadou et Mme Maria Gomez, qui, elle, travaille entre 11h et 15h. Donc n'hésitez pas à leur souhaiter la bienvenue, puisqu'ils prennent soin de ces lieux dans lesquels nous travaillons. Vous avez vu aussi que nous avons un magnifique jardin. Merci aux délégués de l'année dernière qui avaient donné leur avis sur ce projet. C'est à eux, notamment, que nous devons d'y avoir installé 3 tables. Dans le projet initial, il n'y en avait qu'une. Voilà. Juste après l'Eucharistie, directement en sortant de l'église, nous nous retrouverons dans ce jardin, enfin tous ceux que le jardin pourra contenir, parce que c'est pas sûr qu'on tienne tous, mais on se retrouvera dans ce jardin pour le bénir, pour rendre grâce à Dieu pour ces plantes qui nous sont données, ces arbres et ces arbustes et ces fleurs. Voilà. C'est un espace qui est confié à chacun. Prenons-en donc soin. Et à ce sujet, j'ajoute aussi que, en ce qui concerne toutes les questions d'écologie, nous avons, disons, des marges de progrès, comme on dit, possibles au Centre Sèvres. Nous en avons le souci et nous espérons avancer peu à peu sur ce terrain. Je vous signale un tout petit pas qui est fait en cette direction, c'est que dans les machines à café du hall, vous pouvez désormais apporter votre propre mug, ce qui évite de mettre un gobelet en plastique. Voilà. C'est un tout petit pas, mais qui sera suivi, je l'espère, par d'autres. Voilà. Il me semble important de dire aussi un mot ce matin, alors que nous entrons dans cette nouvelle année, sur le climat qui entoure l'Église catholique en cette rentrée 2018. L'été a été rude pour l'Église, avec notamment toutes ces affaires d'abus sexuels, qui l'une après l'autre nous enfonce un peu plus la tête sous l'eau. Sans compter tout ce qui est venu autour de cela, qui met une ambiance pénible dans l'Église. Alors à ce sujet, je voudrais simplement dire 3 choses. La première, et je crois que nous en avons maintenant vraiment conscience dans l'Église, c'est que à travers ces abus sont en cause des actes vraiment graves, parce qu'ils blessent profondément des personnes, et souvent pour toute leur vie. À cela, on peut ajouter que c'est grave aussi pour l'Église, parce que c'est un signe criant d'une distorsion entre ce que nous annonçons et ce que nous vivons. Il est probable que notre capacité d'annoncer l'Évangile s'en trouve affaiblie, ce qui représente encore un autre dommage pour tous ceux qui, dès lors, seraient ainsi privés de la bonne nouvelle. En même temps, et c'est la troisième chose que je veux dire, cette crise peut avoir aussi une fécondité. Les questions de fond commencent à être nommées. Le pape François a employé le mot de cléricalisme. Voilà une question de fond qui touche à notre manière de vivre l'autorité dans l'Église. Ce n'est pas une question facile, comme si le simple fait d'en prendre conscience suffisait à résoudre le problème. Ça ne peut non plus se réduire à un slogan. Cette question, elle doit, je crois, nous mettre au travail, nous mettre en route dans la durée. Et nous avons sans doute, les uns et les autres, encore beaucoup de chemin à faire. Avec vous, qui êtes en formation, au moment où tout cela se produit, nous aurons à réfléchir là-dessus, à réfléchir sur ce qu'est une relation pastorale, à réfléchir sur la manière dont nous contribuons à ce que la parole circule dans l'Église, une parole libre, à la fois respectueuse et vraie. Tout cela s'apprend. Et le temps de la formation est aussi un temps pour travailler cela. Je vous signale à ce propos qu'un cycle de conférences est prévu sur ce thème. Relations pastorales et respect des personnes. Vous le trouverez dans le programme, page 127. C'est un cycle de conférences qui commence en mars. Bien sûr, ce n'est qu'un élément pour travailler sur le chantier que je viens de nommer, un petit élément. Et à lui seul, il ne suffit pas. Mais cela signifie en tout cas que le chantier est ouvert. À propos de tout cela, j'ajoute encore un point. Nous pouvions rêver d'une Église qui, devenant minoritaire, soit en même temps comme un signe resplendissant au milieu du monde. En somme, une Église petite mais lumineuse. Je ne vous cache pas que j'en rêvais moi-même. Eh bien, on dirait que c'est raté. Ce que nous renvoient les informations à longueur de jours, de semaines, c'est l'image d'une Église souillée, honteuse. Est-ce seulement calamiteux ? Peut-être pas. Car une Église qui serait pure et sans tache et qui brillerait au milieu du monde, ça peut nous installer dans un imaginaire binaire, dans lequel il y a nous qui sommes vraiment bien, et puis il y a le monde qui va comme il va. Cette crise à rebondissement des abus sexuels nous rappelle que nous avons à annoncer l'Évangile en traversant les images humiliantes, non pas en les niant, ni en les rejetant, mais en tenant debout au milieu de tout cela. Et sans doute que dans toute l'histoire de l'Église, il n'y a pas d'autre manière pour annoncer la bonne nouvelle. La chance de cette crise calamiteuse pourrait donc être aussi de nous rappeler que la sainteté de l'Église, comme d'ailleurs la sainteté des croyants, notre propre sainteté, ne consiste pas à être sans tache, mais à être tournés ensemble vers notre Seigneur et notre Sauveur. Voilà, je voulais vous dire ça en ce début d'année. Mais il est temps aussi que je vous présente notre intervenante de ce matin. Nous accueillons, pour ouvrir cette année académique, Agatha Zielinski. Agatha est Xavière, elle est maître de conférence en philosophie à la faculté de médecine de Rennes 1. C'est donc, pour une philosophe et une croyante, une manière d'être confronté à un milieu, des questions, peut-être aussi un style, qui ne sont pas forcément ceux du sérail, ceux de l'Église. Et je pense qu'Agatha nous partagera sans doute l'intérêt et la fécondité d'un tel type de présence et d'engagement. Pour être complet dans ma présentation, je dois ajouter qu'Agatha est une ancienne élève de l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, auteur d'excellents ouvrages sur Merleau-Ponty et Lévinas, La responsabilité est sans pourquoi, par exemple, c'est le sous-titre de son livre sur Lévinas, mais surtout que Agatha est une ancienne élève du Centre Sèvres. En plus, au moment où moi-même j'étais élève ici. Et elle continue d'y intervenir régulièrement. Par exemple, cette année, le 17 novembre prochain, dans le cadre du colloque qui se tiendra à l'occasion des 30 années de la présence de la Xavière à la maison Jeanne Garnier, Agatha Zielinski interviendra. Quand Agatha était étudiante ici, elle était notamment réputée pour ses grands rires et ses poissons d'avril. Je suis sûr, quant à moi, que les murs du Centre Sèvres, quelque part, ont enregistré ses bons rires francs et généreux. Et quand ils sont tristes, ces murs, après tout ça peut leur arriver, Je pense qu'ils se souviennent de ces rires d'Agatha et que ça leur remonte le moral. Alors, merci, Agatha, de venir nous aider à entrer dans cette année académique. Nous en sommes vraiment ravis. Tu as choisi comme titre pour ton intervention « Quel est l'humain dont on prend soin ?» Petite anthropologie philosophique, pourtant complexe. C'est sans doute une manière de revisiter cet être étonnant qu'est l'être humain à partir de sa vulnérabilité et de sa liberté. Agatha, je te laisse la parole.
Merci beaucoup. C'est vrai que j'avais oublié cette affaire de 1er avril, avec peut-être un de mes premiers cas de conscience, c'est que faire lorsque le 1er avril tombe un vendredi saint. Je ne me souviens plus comment on y a répondu.
Moi, je me souviens d'un énorme poisson en papier que Agatha avait dessiné, qui s'appelait « Poisson fondamental ». Et c'était destiné au cours de Bernard Cesbouë de théologie fondamentale. Il était censé monter en l'air grâce à un système de ballon.
Gonflé.
Et malheureusement, ça n'a pas marché. Donc le poisson est resté dans les basses eaux. Voilà.
Et tout à coup, il s'est libéré tout seul sans qu'on le veuille. Merci, Étienne, de m'avoir sollicité. C'était un peu par surprise. Vous deviez avoir une intervenante théologienne qui finalement n'a pas pu venir. Mais ce qui m'a poussée à répondre favorablement à cette demande venue il y a peu, c'est la gratitude. Alors pour parler ignatien, c'est une motion de gratitude, je dirais même. Je dois beaucoup au Centre Sèvres et parler ici ce matin, c'est une façon d'exprimer ma reconnaissance, et notamment pour avoir fait cette expérience de progresser réellement dans l'intelligence de la foi et l'intelligence du monde. Alors je ne suis pas théologienne. Je suis philosophe, et je parlerai comme philosophe, mais je ne serai pas philosophe, je ne serai pas philosophe comme je le suis, ou je ne ferai pas de la philosophie comme je m'efforce d'en faire, si je n'avais préparé un baccalauréat canonique de théologie au Centre Sèvres, il y a quelques années. Et je pense que vraiment, ma manière de faire de la philosophie a été irriguée, pétrie même, par exemple, par la lecture de Rahner, dont la réflexion théologique est une manière de dire la présence de Dieu en l'autre, dans la liberté de l'autre, quel qu'il soit. Par la lecture de Michel de Certeau, par le cours d'anthropologie théologique de Christophe Théobald, le christianisme comme style et manière d'habiter le monde, bien d'autres cours, bien d'autres lectures. Et peut-être que l'apprentissage de la théologie vécue au Centre Sèvres a justement façonné un style, une manière d'habiter et de vivre la philosophie. Pour en dire un peu plus, je crois pouvoir dire, enfin c'est venu comme ça un peu en préparant, que mon travail en philosophie est sous-tendu, même soutenu, par ce que j'appellerais aujourd'hui une théologie de l'hospitalité. Une théologie de l'hospitalité où l'on accueille et où l'on est soi-même accueilli. Une théologie de l'hospitalité pour vivre la mission comme une visitation, c'est-à-dire sur le mode de la réciprocité, sur le mode de l'accueil de ce que Dieu fait en l'autre qui ne pense pas nécessairement comme moi, en l'autre qui n'est pas nécessairement croyant. Une théologie de l'hospitalité, ce serait justement découvrir Dieu qui cherche à croître en l'autre, écouter l'esprit à l'œuvre en l'autre, et, réciprocité, recevoir de l'autre, parfois vraiment par surprise, comme une confirmation que Dieu cherche à croître et à se dire en moi aussi, à travers moi. Une théologie de l'hospitalité pour accueillir la pensée de l'autre, qui pense parfois à mille lieues de ce que je pense, et voir ce que cette pensée produit en moi. Et donc parfois, concrètement, c'est me laisser accueillir par des instances, des institutions, des courants de pensée qui ne me sont pas familiers, dont je ne partage pas les présupposés ou les convictions. La formation théologique reçue au Centre Sèvres m'a permis, je crois, d'aimer penser avec les non-croyants. M'a donné le goût de les fréquenter, comme une manière de chercher et trouver Dieu en toutes choses, y compris donc dans des pensées qui peuvent lui être opposées. Dit encore autrement, cette théologie de l'hospitalité me pousse à chercher comment Dieu est à l'œuvre là où il semble absent, là où il n'est pas dit, voire là où on s'oppose à lui. Se faire hospitalier, hospitalière à la pensée d'autrui, c'est déjà essayer de faire à la manière de Dieu, venu dans le monde et dans la chair humaine. Alors, juste deux petites précisions. Chercher et trouver Dieu en toutes choses, y compris dans des pensées qui se veulent parfois éloignées de la confession de foi, cela ne signifie pas être d'accord avec tout ce qui se dit ou ce qui se pense. Mais ça veut dire, par exemple, concrètement, lire les livres de Judith Butler, lire les penseurs du genre, plutôt que de dénoncer la soi-disant théorie du genre sans en avoir rien lu. Qu'est-ce que cela fait de lire une pensée avec laquelle on n'est pas totalement d'accord? Cela fait apprendre des choses, cela fait considérer le monde ou une question de société d'un autre point de vue, ça fait voir avec les yeux des autres. Ça permet de faire route ensemble en voyant jusqu'où on peut marcher de conserve. Et si les chemins se séparent, c'est voir ce que la fréquentation de cette pensée a rendu possible, ce que la pensée de l'autre a suscité pour ma propre pensée et pour ma foi. Penser à partir d'une théologie de l'hospitalité, c'est donc recevoir les questions que pose la pensée de l'autre et chercher à y répondre aussi à partir de la foi chrétienne, le plus possible dans un langage, dans des catégories qui puissent être accessibles à ces interlocuteurs-là. Chercher à y répondre à partir des ressources de la foi chrétienne. J'emprunte cette expression au philosophe et sinologue François Julien, qui dans un petit livre récent, se demande si le christianisme a encore des ressources à offrir à la pensée d'aujourd'hui, indépendamment de la démarche de foi. Il interroge « Qu'est-ce que le christianisme fait à la pensée ?» Qu'est-ce que le christianisme a fait à la pensée et qu'est-ce que le christianisme fait encore aujourd'hui à la pensée, et notamment à la pensée de l'existence ? Alors, François Julien met en avant que le christianisme a beaucoup donné à découvrir sous la figure de l'autre, pardon, je le cite, sous la figure de Dieu, ce qu'il en est de la rencontre de l'autre. Il dit le christianisme a beaucoup donné à penser à tout un chacun qu'est-ce que c'est la rencontre de l'autre. Mais il questionne. Est-ce que cette capacité productrice du christianisme, ce qu'il a le pouvoir de développer en l'homme, est aujourd'hui épuisée? C'est sa question. Ça peut être la nôtre. Et cette question, est-ce que cette capacité productrice du christianisme est aujourd'hui épuisée, il va l'envisager, non pas en termes de valeurs, mais de ressources, justement. Il dit, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de penser les valeurs du christianisme, c'est de penser les ressources. Comme ressource de pensée et ressource de vie, écrit-il. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quelle partie, je le cite, quel profit peut-on tirer aujourd'hui de la lecture de l'Évangile sans passer nécessairement par la porte d'entrée de la foi? Qu'est-ce qui peut faire la cohérence, la pertinence du christianisme aujourd'hui? Ou encore, quel est le potentiel du christianisme aujourd'hui? Quel possible le christianisme peut-il ouvrir pour tout un chacun qui voudrait mettre sa pensée en marche, tout un chacun qui voudrait se questionner sur l'existence? Alors voilà, être chrétien et mettre la pensée au travail, au contact de la pensée des autres, c'est faire ce pari que le christianisme n'a pas encore délivré toutes ses ressources. Faire le pari que le christianisme a encore à offrir, à ouvrir de nouveaux possibles à la pensée. Et dans cette perspective, être soutenu par une théologie de l'hospitalité, ça signifie au minimum un devoir, une vigilance d'honnêteté intellectuelle. Et cela se met en œuvre en allant à la rencontre de l'autre, en croyant que la rencontre avec celui, celle qui ne pense pas comme moi, pourra libérer ses ressources. Comme la visitation, libère, délivre la joie et la fait exister en louange, en joie offerte, en joie qui se partage. Alors pour le dire encore autrement, la théologie de l'hospitalité nous met dans un double mouvement, le mouvement de donner et de recevoir. Et ce double mouvement, le philosophe Paul Ricoeur l'appelle aussi sollicitude. Donc c'est aussi une invitation à penser avec sollicitude que je voudrais offrir aujourd'hui. Pour ma part, j'étais amenée à vivre quelque chose de cela, à faire de la philosophie dans et avec le monde du soin. C'était suite à un expériment de noviciat, comme bénévole en soins palliatifs. Ce sont vraiment les chances et les joies de la vie religieuse, c'est d'être envoyée dans un milieu qui nous est totalement étranger, et même au premier regard, moi j'aurais dit non, jamais là. Être envoyée dans un milieu où on ne serait jamais allé de soi-même, et en revenir transformé. Suite à cette expérience marquante, j'ai observé, sans l'avoir voulu, sans l'avoir choisi, que ma recherche en philosophie était travaillée, était habitée par des questions nouvelles. La compassion, la vulnérabilité, qu'est-ce que c'est que être avec, et recevoir, avoir reçu ces questions sans les avoir choisies, cela m'a finalement menée à travailler la philosophie du soin et l'éthique de la relation de soin. Et c'est à partir de quelques questions prégnantes aujourd'hui dans l'éthique du soin que je voudrais vous parler ce matin et poser cette question de quel humain est-ce qu'on prend soin ? Les questions les plus débattues l'année dernière, il y a quelques mois, à l'occasion des états généraux de la bioéthique, parmi les 9 thèmes qui étaient proposés à la réflexion des citoyens, c'était l'assistance médicale à la procréation, avec la question de son ouverture aux femmes seules et aux couples de femmes, et le thème de la fin de vie, avec la question de l'éventualité de pouvoir, je cite, choisir sa mort sous la forme de l'euthanasie ou du suicide assisté. Ce n'est pas anodin que ces deux thèmes aient été les plus discutés. Parce qu'ils sont sous-tendus tous les deux par cette question justement du choix personnel. Et les discussions sur ces sujets viennent interroger de façon sous-jacente les représentations de l'humain. Les discussions sur ces sujets mettent en évidence les priorités anthropologiques implicites de notre société. Alors, quand je parle de notre société, je précise souvent en disant notre société occidentale de consommation. Il me semble que le rapport à la consommation, et a fortiori aussi Internet, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, façonnent notre rapport au monde, et en particulier nos représentations du possible et du désirable. Comment est-ce que cela façonne nos représentations du possible et du désirable ? Eh bien, notamment par l'apparente disponibilité de toute chose à notre usage personnel, que ce soit les informations, que ce soit les produits. Je dirais même peut-être qu'il faudrait parler d'une société du « à disposition », c'est-à-dire du produit comme ce qui est « sous la main », pour reprendre une expression de Heidegger, ce que je peux saisir, manipuler, ce dont je peux faire usage à ma guise. Et la quantité de ces produits ou de ces informations que nous avons à portée de main favorise peut-être l'illusion que tout est disponible. Ou même, et ce serait à creuser, peut-être que ça favorise la confusion entre la disponibilité, l'usage et le choix comme appropriation. Alors, juste une petite anecdote, certains m'ont déjà entendu là-dessus, sur mon expérience traumatisante du rayon de yaourt au supermarché. Alors, je ne sais pas si tous parmi vous, parmi les nouveaux arrivants en France, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'aller faire les courses dans un supermarché ? Un super supermarché, bon, à Paris intramuros, ça peut vous donner une idée, mais si vous allez dans un, je ne vais pas citer des marques, hein, mais dans un hypermarché. Une fois, je faisais des courses avec justement quelqu'un qui arrivait d'Afrique subsaharienne. On s'est mis en course. Et on arrive devant ce rayon des yaourts. Peut être long comme la salle, peut-être. Et là, la personne avec qui j'étais me dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Ah, je dis, on fait les courses. Et tout à coup, j'ai vu ce rayon avec ses yeux. C'est-à-dire, cette qualité, cette diversité, c'est-à-dire, alors je dis souvent en plaisantant, si vous voulez trouver le yaourt au lait de brebis bio allégé, mais lait du brebis du Cantal au citron, je pense que c'est possible. Donc vous voyez, ce qui est imaginable, souhaitable, est apparemment disponible. Et du coup, ça façonne notre mentalité. Bon, je ne vous parle même pas de Google, voilà, je fais ça, il y a une information qui arrive, qui n'est pas forcément la bonne, mais l'information arrive. Nous sommes façonnés par ce côté à disposition des choses. Avec l'anecdote, j'ai perdu... Ah, voilà. Alors, dans cette société du à disposition, quel est l'humain dont on prend soin? Est-ce que c'est celui qui va revendiquer des droits individuels, c'est-à-dire le droit de faire usage à sa guise de tout ce qui est techniquement possible, la procréation médicalement assistée, l'assistance à mourir si je le veux, ou bien celui qui, de par sa fragilité, a besoin des autres? Ou bien il ne faut pas séparer les deux? Ces débats sont parfois présentés comme un conflit entre autonomie, ma liberté, mon droit, et vulnérabilité. Par exemple, Jean Leonetti, qui est député et qui est l'initiateur en France d'une loi très nuancée, très équilibrée sur la fin de vie, dernièrement s'est mis à parler en termes d'opposition entre une éthique de l'autonomie et une éthique de la vulnérabilité. Je trouve ça dommage parce que tout l'enjeu, précisément, c'est d'articuler les deux. L'humain dont on prend soin est à la fois autonome et vulnérable. Il est l'homme souffrant et capable dont parle Paul Ricoeur. L'enjeu, et c'est des éléments de cet enjeu que je vais présenter, c'est de penser une autonomie vulnérable et une vulnérabilité capable. Pour préciser un peu ça, de quelle liberté, de quelle autonomie est-il question dans ce contexte de notre société du « à disposition » ? Comme je l'évoquais déjà, ce qui traverse l'ensemble des discussions et des débats, c'est l'argument du choix personnel. C'est mon choix, je veux pouvoir choisir. Du moment que c'est leur choix, elles peuvent bien faire ce qu'elles veulent, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. La revendication du choix personnel apparaît souvent comme le critère ultime du débat, celui auquel on ne peut plus rien ajouter ou rétorquer, celui qui va clore la discussion, comme s'il n'y avait plus d'arguments. Le choix apparaît dans ce type de formule comme une volonté personnelle qui va primer sur les autres au titre qu'elle est personnelle, justement, et qu'elle serait par là l'expression d'une véritable liberté. On peut pourtant se demander dans quelle mesure un choix personnel, qui vient de moi, qui est formulé par moi, est véritablement un choix autonome, c'est-à-dire, comme je vais le préciser, rationnel et indépendant. Souvent, dans ces formulations, le « c'est mon choix »,« je veux pouvoir choisir », l'autonomie qui s'exprime se présente plutôt comme une forme d'autodétermination, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est que ce soit moi qui formule mon souhait. Parfois, ce qui compte, c'est que ce soit moi qui ai le dernier mot, même si ce choix est conduit ou produit par l'influence de mes représentations, une souffrance, une revanche, une pression sociale, dont je n'ai pas forcément conscience. Alors, je voudrais explorer très brièvement ce qu'il en est de l'autonomie, de quoi on parle, et je vais m'inspirer notamment, et je vais vous renvoyer à la lecture d'un très bon livre de Michela Marzano, qui s'intitule « Je consens, donc je suis », sous-titré « Éthique de l'autonomie ». Elle met en avant deux conceptions de l'autonomie qui façonnent nos représentations et nos débats actuels. Le premier modèle qu'elle évoque, c'est le modèle kantien de l'autonomie. Modèle où l'autonomie se réfère à l'étymologie du mot « autonomos », à soi-même sa propre loi. L'autonomie, ce serait se donner à soi-même ses propres lois. Mais attention, sous la plume de Kant, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une part de se libérer de la contrainte exercée à la fois par autrui et par nos appétits ou nos inclinations sensibles, et d'autre part, de se mettre à l'écoute de la raison, pour le dire très rapidement, par exemple, de notre conscience morale. Et cela, nous mettre à l'écoute de notre raison, cela nous engage envers l'humanité tout entière, et non pas uniquement à l'égard de l'individu que je suis. Pour que la loi que la volonté se donne elle-même soit morale, elle doit valoir pour tous. Ce qui est bien loin d'une équivalence entre « je fais ce que je veux » et « je fais ce qui me plaît ». Le deuxième modèle évoqué par Michela Marzano, c'est le modèle anglo-saxon, issu par exemple d'un ouvrage de John Stuart Mill qui s'intitule « De la liberté ». Selon ce modèle, la liberté consiste pour chacun à agir par soi-même selon sa propre représentation du bien, de ce qui est bon pour lui. Nul autre que moi n'est apte à déterminer ce qu'il en est de mon bien. Et par là, être autonome, c'est être indépendant et même pouvoir se protéger contre l'intrusion et la bienveillance d'autrui ou de la société, voire de l'État. Être autonome, c'est ne pas être contraint, même par ce qui pourrait m'apparaître comme des entraves sociales à l'exercice de ma liberté. La limite à l'exercice de cette forme de liberté, c'est le tort qu'elle pourrait causer à autrui. Donc il s'agit de mener sa vie selon la conception que l'on en a, sans être obligé de se conformer à des normes qui seraient établies par des instances supérieures. Donc ici, on est plutôt du côté de l'autonomie comme d'une autodétermination, capacité à affirmer, à agir selon ma volonté propre. Ce modèle trouve sa formule peut-être la plus épurée dans l'éthique minimaliste d'un Ruhen Ogien, par exemple, qui se résume dans la formule suivante. Ne pas nuire aux autres, rien de plus. Le présupposé d'une telle autodétermination semble être que la plupart de mes décisions et de mes actes ne concernent et n'engagent que moi. Vous voyez que l'individu ou l'anthropologie dont il est question de façon sous-jacente nous présente un individu délié ici. Alors évidemment, il ne faut pas renvoyer dos à dos ces deux conceptions de l'autonomie en les opposant. Mais plutôt voir qu'elles ont en commun notamment de nous présenter en quelque sorte un idéal type. Un individu capable de choix purement rationnels ou un individu qui serait indépendant. Cela nous aide à penser. Mais sans oublier que notre réalité humaine est mêlée. En fait, nous ne savons pas toujours ce que nous voulons. Ou bien nous ne savons pas toujours ce que signifie concrètement faire passer l'humanité tout entière avant nos intérêts propres. Ou bien si nous disons que nous refusons les contraintes, nous n'avons pas toujours conscience des influences que nous subissons. Nous pouvons aussi tomber dans le conformisme d'être anticonformiste. Cette tendance d'être anticonformiste. C'est à la mode. Puis notre rationalité est mêlée au corps, au désir, à l'imaginaire. Et, surtout peut-être, notre existence, et a fortiori nos décisions, sont mêlées aux autres, ou mêlées des autres. J'aime beaucoup la formule du poète John Donne, « Nul n'est une île ». Nul n'est une île. Il me semble que cela dit beaucoup de choses. Et puis, nous savons d'expérience que l'autonomie n'est pas ce qui nous est donné d'abord, ni une fois pour toutes. L'autonomie s'acquiert. Elle s'acquiert progressivement. Elle fluctue tout au long de l'existence. Elle peut être partielle. Et puis, Ce paradoxe, c'est que c'est grâce aux autres que nous devenons autonomes. Nous n'existons, nous ne vivons, nous ne survivons que parce que d'autres nous ont donné des premiers soins. Le petit homme ne peut pas exister s'il n'est soigné, accompagné, s'il n'est écouté, si on ne lui parle, si d'autres ne lui parlent. C'est grâce aux autres que nous devenons autonomes. Ce qui est une façon de dire que notre réalité humaine, dans l'expérience que nous en avons, est bien plus une interdépendance qu'une indépendance. C'est sur ce fond relationnel initial que nous avons à exercer notre autonomie, notre liberté. L'autonomie qui se conquiert progressivement ne nous fait peut-être pas quitter notre expérience initiale, qui est l'expérience de la vulnérabilité et de la dépendance. Peut-être ne quittons-nous jamais entièrement l'expérience de la vulnérabilité et de la dépendance, mais nous articulons cette expérience avec celle de l'autonomie. Pour voir cela de plus près, j'aimerais maintenant dire quelques mots de notre expérience de la vulnérabilité. J'aime revenir à l'étymologie. Vulnérabilité, ça vient d'un terme latin, vulnus, qui désigne la blessure. Ou parfois, dans certains contextes, l'arme qui blesse. Donc, étymologiquement, être vulnérable, c'est être exposé à la blessure. C'est pouvoir être atteint. Dans le registre du combat, le soldat vulnérable, c'est celui qui va être, par exemple, sans bouclier, sans armure. Ce qui ne veut pas dire qu'il est empêché de combattre. Il n'est pas empêché de combattre. Il est exposé plus qu'un autre à la blessure. De même, ce que j'appellerais l'humaine vulnérabilité ne nous empêche pas de mener le bon combat, ne nous empêche pas d'exercer notre métier d'humanité. Au contraire, ce que j'aimerais évoquer, c'est qu'elle nous rend peut-être plus sensibles au commun de l'humanité. Alors, si je regarde de plus près, à partir de cette étymologie, en posant cette question, quelle est notre vulnérabilité, c'est-à-dire à quoi sommes-nous exposés du fait de notre condition humaine. Alors, d'une part, nous sommes exposés aux événements, à l'imprévu, voilà, l'intervenante prévue ne vient pas. Nous sommes exposés à l'accident, à l'inopiné, à ce qui survient de façon imprévue, imprévisible, et ce sur quoi nous n'avons guère de prise. C'est ce qu'on peut appeler la vulnérabilité contingente, c'est-à-dire qui est liée à ce qui peut survenir ou ne pas survenir. Mais il y a aussi un autre type de vulnérabilité qu'on peut appeler la vulnérabilité inhérente à la condition humaine, à l'existence humaine. À quoi sommes-nous fondamentalement exposés du fait de notre condition humaine? Eh bien, nous sommes d'abord exposés à nos propres limites, ce que les philosophes appellent la finitude humaine. Nous sommes d'abord exposés à nos limites physiques, par exemple. Nous sommes limités dans le temps et dans l'espace. C'est tout bête, hein. Vous savez, c'est le moment où les philosophes ne parlent que de choses évidentes, mais tellement évidentes qu'on n'en a pas nécessairement conscience, qu'on ne les pense pas spontanément. Eh bien, par exemple, vous et moi, nous sommes ici. Et nous ne pouvons être que ici, et pas en même temps là-bas. Vous savez, ça nous arrive sans cesse, cette expérience d'avoir à la fois envie d'être là où on est, parce que bon, quand même, ou d'être un peu obligé d'être là où on est, parce que quand même, la journée de rentrée au Centre Sèvres, il faut s'y montrer, il faut y être. Puis quand même, on va entendre des choses intéressantes, des invitations, tout ça. Bon, mais à la fois, si on avait voulu dormir plus longtemps, si on avait pu dormir plus longtemps. Vous voyez, cette espèce de désir comme ça, d'être à la fois là et ailleurs. Mais nous ne pouvons pas, en termes chrétiens, c'est que nous n'avons pas le don d'ubiquité. Nous sommes limités dans le temps, nous ne pouvons pas être à la fois maintenant et hier. Bon, vous voyez, ce sont des évidences. Mais ce sont des évidences qui ont un impact sur la manière dont nous pensons notre réalité humaine. Nous sommes aussi exposés aux limites de nos facultés. Notre raison, Nous ne pouvons pas tout comprendre, nous ne pouvons pas tout connaître, nous ne pouvons pas tout savoir. Notre volonté même, j'évoquais tout à l'heure que on ne sait pas toujours ce qu'on veut. Notre mémoire, j'ai oublié ce que je voulais vous dire là. Notre imagination même est limitée. Nous ne pouvons imaginer qu'à partir de choses, d'éléments que nous connaissons déjà. Nous sommes exposés à nos propres limites. Nous ne savons pas tout, nous ne pouvons pas tout. Et la première blessure à laquelle nous sommes exposés, c'est peut-être une blessure narcissique. Et c'est peut-être la plus difficile à reconnaître. Nous ne sommes ni omniscients, ni tout-puissants, et pourtant, en même temps, souvent, toute une part de nous-mêmes cherche à faire comme si nous l'étions. La tentation de la toute-puissance ne cesse de nous habiter, voire de nous animer. Et précisément, la reconnaissance de notre vulnérabilité, comme non-toute-puissance, peut être un rempart, un garde-fou contre cette tentation. Garde-fou contre la toute-puissance, la vulnérabilité l'est peut-être aussi contre ce moment où la liberté comme pouvoir de faire quelque chose, pouvoir d'agir, risque de se transformer en pouvoir sur quelqu'un, quelque chose, en domination. Ce rappel que notre vulnérabilité peut être un rempart contre la tentation de la toute-puissance et de la domination, ce rappel peut se révéler précieux dans la relation de soins, mais aussi dans des relations d'éducation, des relations d'accompagnement qui ont une part de dissymétrie, d'asymétrie. Pourquoi est-ce que ça peut être précieux, ce rappel ? Parce que l'expérience de la finitude que nous rappelle notre vulnérabilité nous tient à égalité dans l'expérience que nous faisons de notre condition humaine. Même dans une relation de soins ou d'éducation ou d'accompagnement où il y a une forme de dissymétrie, rappelons-nous que la vulnérabilité est notre fond commun d'humanité. Là où l'un semble avoir une connaissance qu'un autre n'a pas. Là où l'un peut quelque chose que l'autre ne peut pas. Dans ces situations de dissymétrie, la commune vulnérabilité vient mettre de la nuance, vient remettre un possible d'égalité là où il y a toujours un risque de domination. L'expérience de le rappel de notre vulnérabilité nous permet de nous rencontrer alors comme semblables, d'entrer en relation de personne à personne et pas uniquement de maître à élève, de soignant à soigné, de fonction à fonction. La vulnérabilité crée alors les conditions de possibilité d'une certaine réciprocité où il ne s'agit pas seulement de donner, mais aussi de reconnaître que l'on reçoit. Et c'est ainsi que Ricoeur, comme je le disais tout à l'heure, définit la sollicitude. Peut-être que la sollicitude a sa condition de possibilité dans cette commune vulnérabilité. Encore deux points à propos de la vulnérabilité. Peut-être qu'il faut que j'accélère, non ? Ça va. Vous devinez déjà, vous voyez déjà, que la vulnérabilité telle que j'en parle n'est pas uniquement une condition subie, une passivité, mais une capacité. La vulnérabilité est aussi capacité à être affecté, à être atteint. En effet, contrairement à la fragilité qu'on peut définir comme ce qui est immanent à la chose fragile, à l'objet fragile, la vulnérabilité, elle est toujours exposition à quelque chose ou à quelqu'un. Autrement dit, la vulnérabilité nous ouvre sur une extériorité. Elle a d'emblée une dimension de lien, d'ouverture avec autre chose.
elle a une dimension relationnelle. Et c'est à ce point qu'il faut rappeler une autre dimension fondamentale de la vulnérabilité, c'est que nous sommes exposés à autrui. C'est là, par exemple, le fondement de l'éthique, selon le philosophe Emmanuel Lévinas. Et nous sommes certes exposés à la souffrance d'autrui, à sa faim, à son dénuement, à sa propre vulnérabilité, mais plus largement, plus fondamentalement peut-être, nous sommes exposés à l'existence même d'autrui. La seule existence de quelqu'un, son entrée dans mon champ d'existence, modifie notre rapport à nous-mêmes et au monde. Sous quelque modalité que ce soit d'ailleurs, que ce soit sur le mode de la surprise, de l'attente, de la joie ou de la tristesse, de la violence ou de la tendresse, mon champ d'existence est modifié lorsqu'autrui y apparaît. Nous ne pouvons pas faire comme s'il n'y avait pas autrui dans notre champ d'existence. Et c'est alors peut-être que la vulnérabilité comme capacité à être affectée et affectée par autrui nous permettrait de cultiver quelque chose comme l'attention et la réceptivité. Et le dernier point que je voudrais dire à propos de la vulnérabilité, ce n'est pas mon dernier point, c'est mon dernier point à propos de la vulnérabilité. C'est que je pose l'hypothèse que la reconnaissance de notre propre vulnérabilité pourrait être considérée comme une vertu. Une vertu au sens qu'Aristote donne à ce terme, c'est-à-dire un juste milieu entre deux extrêmes, ces extrêmes qui nous font moins bons que ce que nous sommes appelés à être. Alors, un exemple très classique, qu'est-ce que c'est la vertu du soldat? Qu'est-ce qui fait qu'un soldat est un bon soldat? Un soldat qui est un bon soldat, c'est un soldat courageux. La vertu du soldat, l'une des vertus du soldat est le courage. Et qu'est-ce que c'est le courage? C'est un juste milieu entre deux extrêmes, un extrême par défaut, un extrême par excès. Qu'est-ce que c'est le défaut de courage? C'est la lâcheté. Un soldat lâche n'est pas un bon soldat lorsqu'il n'ira pas au combat. L'autre extrême, c'est l'excès de courage, c'est la témérité. Pourquoi est-ce qu'un soldat téméraire n'est pas un bon soldat? C'est un soldat qui va exposer sa vie, peut-être la vie des autres, etc. Le juste milieu, le courage. La reconnaissance de notre vulnérabilité, en quoi est-ce que ça pourrait être une vertu? Il me semble qu'on pourrait considérer la reconnaissance de notre vulnérabilité comme un milieu entre d'un côté le sentiment d'impuissance qui nous empêche d'agir, qui nous rend incapables d'agir, et de l'autre côté, la tentation de la toute-puissance qui ne nous empêche peut-être pas d'agir, mais qui nous désajuste de la réalité. La vulnérabilité comme non-toute-puissance serait un juste milieu qui nous rendrait capable d'une perception plus fine des situations, d'une attitude plus ajustée. Quelque chose comme un humble réalisme qui, en reconnaissant que l'on ne peut pas tout, s'efforce d'évaluer et de faire ce qu'il peut. La reconnaissance de notre vulnérabilité nous mettrait du côté réaliste du possible. Nous sommes vulnérables, mais pas incapable. Et précisément, une manière de penser ensemble l'autonomie et la vulnérabilité est de se tourner vers les capacités. Ou, comme on le dit chez certains auteurs anglo-saxons, comme Amartya Sen ou Martha Nussbaum, les capacités. Peut-être qu'une autonomie vulnérable, une liberté qui n'est pas absolue, mais marquée par la finitude, peut se penser, pas seulement en termes de limites, mais aussi de possibles. Considérer l'humain capable, c'est voir les possibles, plutôt que le pouvoir, peut-être. Très brièvement, je vous en donne une illustration en me référant à Ricoeur, Paul Ricoeur. Ricoeur, dans sa phénoménologie de l'homme capable, valorise quatre capacités fondamentales à travers lesquels se constitue le sujet. Le pouvoir dire, première des quatre capacités, pouvoir dire, c'est la capacité à produire du sens et c'est aussi la capacité de s'adresser à quelqu'un, d'entrer en relation. Le pouvoir agir, c'est la capacité à commencer quelque chose, à introduire du neuf dans le monde, à susciter des événements, à susciter ce qui sans moi n'aurait pas existé. Le pouvoir raconter, pouvoir narratif, c'est inscrire ce qui nous arrive dans un récit qui lui-même trouve place dans une histoire, qui nous précède et nous dépasse. Évidemment, Ricoeur précise bien que le récit n'est pas simplement une mise en mots de ce que je suis, de mon identité, mais il contribue à produire, à élaborer notre identité, parce que le récit va intégrer les changements qui nous arrivent, tout ce qui nous altère et en même temps nous fait devenir ce que nous sommes. Et enfin, Ricoeur nomme imputabilité la capacité à se reconnaître à l'origine de nos propres actes, pouvoir dire « c'est moi qui l'ai fait ». Et Ricoeur précise bien qu'il s'agit là de la capacité comme responsabilité morale. Je ne vais pas entrer dans le détail de cette théorie des capacités. Je voudrais simplement, pour aller vers la fin, illustrer ce qui se joue là par un récit. Le récit d'une rencontre faite lorsque j'étais bénévole en soins palliatifs. Une rencontre avec Monsieur B. Alors, Monsieur B a autour de 85 ans. Il arrive dans l'unité de soins palliatifs, il arrive à la maison médicale Jeanne Garnier. Il est physiquement affaibli, je ne sais pas de quelle pathologie il souffre. Il est physiquement affaibli, c'est quelqu'un qui aime beaucoup lire des livres d'histoire et qui aime beaucoup parler politique. C'est un ancien juriste, il a eu des responsabilités dans son métier. Donc il reçoit volontiers les bénévoles pour parler. Et donc je viens le voir régulièrement et quelque chose qui me frappe, c'est que, alors il a une très fine analyse des questions de société, et tout à coup, très régulièrement, de façon récurrente, surgit une plainte. Régulièrement surgit le « je ne peux plus marcher ». Mais je ne peux plus marcher. Alors, il peut analyser la politique du président de la République, et tout à coup, « je ne peux plus marcher ». Plainte étonnante, parce que par ailleurs, le kiné du service lui propose des exercices pour l'aider à remarcher et qu'il refuse. Mais il y a quelque chose pour lui, là, l'expérience d'un point de dépendance et de renversement, enfin quelque chose qui est visiblement important pour lui. Ah, j'ai oublié de dire que M. B est quelqu'un de très... Il y a quelque chose d'ascétique chez lui, de très rigoureux. Sa chambre est toujours nickel, comme on dit. Il n'y a rien qui dépasse. Dès qu'il lit un livre, il le rend à la bibliothèque. Il n'y a jamais rien qui dépasse. Et puis un jour, j'arrive, et vous savez, des fois, on n'a même pas le temps d'entrer, qu'on sent qu'il y a déjà quelque chose qui a changé. Et j'entre et je vois, alors, la chambre, tout à coup, il y a des couleurs, il y a des magazines partout. Alors, sur le lit, sur les étagères, sur le fauteuil, je suis obligée de pousser pour m'asseoir. Et je vois que ces magazines sont en italien, en espagnol, en allemand. Je suis moi-même un peu interloquée, je lui dis « mais vous parlez toutes ces langues-là ?» Et alors, M. B se redresse dans son lit et il me raconte avec joie, enfin, avec une forme de fierté, que oui, il a appris par lui-même toutes ces langues. Il me raconte comment il les a apprises. Il habitait en banlieue et donc pour exercer son travail, sa profession, il prenait tous les jours le RER sur un temps assez long et aux heures de pointe. Donc vous savez pas encore, mais vous allez rapidement savoir que le métro ou le RER à Paris aux heures de pointe, on est debout et on est vraiment très, très serré. Et puis, il raconte qu'un jour, juste avant de monter dans le RER, il avise comme ça chez le marchand de journaux un magazine avec un sujet qui l'intéresse, mais le magazine est en italien. Alors il l'achète, et puis il se dit, mais en fait, c'est génial. Enfin, il ne le dit pas comme ça, parce qu'il avait un langage très châtié, mais il s'est dit, voilà l'occasion d'apprendre une langue. Et il trouve sa propre méthode. Il achète donc un journal, un magazine en italien. Il surligne au stabilo, ça c'est encore possible, dans le RER, les mots qu'il ne comprend pas. Puis ensuite, il cherche dans le dictionnaire, il se fait son petit carnet, et il apprend l'italien. Et puis ensuite, il se dit, je vais apprendre l'espagnol. Et il apprend l'espagnol, comme ça. Et puis il se dit, ouais, mais l'italien et l'espagnol, ce sont deux langues latines. C'était trop facile. Je vais apprendre l'allemand. Et il apprend l'allemand, comme ça. Moi, je suis très admirative. Et d'autant plus admirative que ce monsieur a lié sympathie avec la famille du patient de la chambre d'à côté, qui est marocain, et monsieur B formule le souhait et le projet d'apprendre la langue arabe. Il n'aura pas le temps de mener ce projet à terme, mais qu'importe. L'essentiel, c'est qu'il s'est passé là quelque chose dans l'existence de monsieur B, qui m'est marqué notamment par la disparition de la plainte du « je ne peux plus marcher ». La plainte a disparu. Moi, il me semble, alors vous voyez, je raconte cette histoire pour illustrer ce qu'il en est des capacités à l'intérieur même d'une situation de très grande fragilité, vulnérabilité et dépendance. Il me semble que M. B a retrouvé un ressort existentiel, un ressort pour se projeter dans l'avenir, un ressort de l'ordre du goûter l'existence. Voyez le point commun entre le RER et sa situation en soins palliatifs. Il ne peut plus marcher. Dans le RER, il y avait cette situation d'être incapable de se mouvoir. Et il avait trouvé une solution pour ce temps d'incapacité motrice. Et voilà qu'il trouve là une solution pour vivre bien ce temps de la maladie, ce moment de la maladie, cette incapacité motrice qui lui était tellement insupportable. Il a retrouvé, j'allais dire, dans le don des langues. Quelque chose s'est passé là. Alors les capacités qui sont à l'œuvre là, voyez quelle est, enfin, je vais le dire à la première personne, quelle pouvait être ma posture à moi face à ces capacités qui se révélaient chez Monsieur B. Je n'avais rien d'autre à faire qu'à en être témoin. Et rien à en dire, sinon en parler encore des années après. Parce que pour ceux qui m'ont... Je pense que parmi vous, il y en a qui m'entendent pour la 10e fois parler de Monsieur B. Je n'en reviens toujours pas de ces capacités qui peuvent être à l'œuvre en nous, des possibles que nous pouvons être capables de réouvrir, alors même que nous sommes dans une situation de dépendance qui peut être extrêmement pesante. À certains moments extrêmement enfermante. L'humain dont on prend soin, c'est l'humain vulnérable et capable. L'humain capable de donner, qui rend capable de recevoir. L'humain capable de recevoir, qui rend capable de donner. Autrement dit, l'humain dont on prend soin, c'est un humain en relation et un humain qui ouvre des possibles. Cela peut nous inviter d'un même mouvement à repenser le soin. Le soin non pas uniquement comme réponse à une détresse, à une souffrance, à un besoin, mais le soin comme écoute de ce qui cherche à se dire et à se donner. Le soin comme attestation des possibles qui s'ouvrent, des capacités qui s'expriment. Le soin qui devient sollicitude en devenant attention, recherche, valorisation des possibles et des capacités. Sollicitude qui espère, qui sollicite parfois les possibles, les ressources, à travers la vulnérabilité. Pour conclure, je voudrais évoquer, esquisser, quelques ressources du christianisme pour penser cette articulation entre la liberté, l'autonomie et la vulnérabilité. Vous voyez que ma réflexion met en avant finalement quelques éléments anthropologiques qui pourraient être éclairés et développés en explorant et en exploitant les ressources de la foi chrétienne. Bon, ces trois éléments anthropologiques, si je les récapitule brièvement, c'est une autonomie ou une liberté qui n'est pas autarcie, mais qui est interdépendance. Ce que certains penseurs, d'ailleurs, appellent autonomie relationnelle. Ensuite, une vulnérabilité inhérente à l'existence humaine, mais une vulnérabilité qui n'est pas une souffrance, une détresse ayant le dernier mot. Une vulnérabilité qui rend capable, qui peut rendre capable de davantage d'attention, qui ouvre des possibles, qui affine la réceptivité, la relation. Et donc, un humain vulnérable est capable, en qui l'articulation de l'autonomie et de la vulnérabilité produit aussi la capacité de donner et se manifeste par l'ouverture de possibles. Ces trois éléments anthropologiques, quelles ressources du christianisme pour les penser ? La foi en un Dieu trinitaire, tout simplement. C'est-à-dire, la foi en un Dieu trinitaire nous met d'emblée devant une liberté relationnelle, une liberté en relation, une interdépendance qui ouvre des possibles. La liberté de Dieu comme inauguration, créativité. Notre Dieu est un Dieu qui ouvre des possibles. C'est aussi ce dont témoigne la vie du Christ que nous lisons, que nous contemplons dans les évangiles. Les rencontres de Jésus, regardons comment elles ouvrent des possibles. Les guérisons remettent debout, mais elles remettent aussi dans le lien social. Elles rendent de nouveau possible la relation, là où elle ne l'était plus. Où nous voyons que rendre libre, c'est remettre en relation, rendre capable de donner, de recevoir à nouveau. Cette foi en un Dieu trinitaire, cette contemplation de la vie du Christ, nous met devant une liberté qui inaugure, qui rend possible, devant un pouvoir des commencements. J'étais frappée, je relisais un autre propos, mais ça entrait en consonance, un passage de Hannah Arendt qui commente saint Augustin, et où elle écrit ceci, donc elle commente saint Augustin, « C'est parce qu'il est un commencement que l'homme peut commencer. Être un homme et être libre sont une seule et même chose. Dieu a créé l'homme dans le but d'introduire dans le monde la faculté de commencer, la liberté. La liberté, l'autonomie, comme faculté de commencer, d'ouvrir des possibles. Et puis, il y a les ressources du christianisme pour penser la vulnérabilité. Nous croyons en un Dieu qui a fait le choix d'une puissance de la faiblesse. La kénose, on pourrait dire, c'est une non-toute-puissance qui est l'envers de la domination. « Qui es-tu, roi d'humilité ?» nous fait chanter l'hymne de Didier Rimaud. Et cette vulnérabilité vécue par le Christ, vécue en Dieu, n'est pas un écrasement, n'est pas une impuissance, mais un acte d'abandon qui rend possible, qui rend la vie possible. Notre foi est une foi en un Dieu incarné. Nous croyons en un Dieu qui a pris chair dans notre chair vulnérable, qui est venu habiter un monde fragile, un monde mêlé. Simplement un écho, le pape François, tout récemment, écrivait « Il ne nous est pas permis d'ignorer la chair du Christ. » Il écrivait à propos des blessés victimes de blessures parfois infligées par l'Église elle-même. Et puis, le christianisme ne manque pas de ressources pour penser la vulnérabilité comme vertu. C'est la vulnérabilité à la manière du Christ, qui est aussi une façon de prendre la condition de serviteur. Ces quelques ressources ne sont qu'une esquisse. J'ai envie de vous dire que c'est à vous de poursuivre ce travail d'explorer et d'exploiter les ressources du christianisme. Et je reviens, pour vous inviter à cela, à ce que François Julien, le philosophe et sinologue que je citais tout à l'heure, dit à propos de ce qu'il appelle une ressource. Je le cite. « La ressource garde en elle une part de potentiel. Elle compte sur un avenir pour se déployer. Elle n'est pas d'emblée bornable ni définissable, car une ressource n'existe effectivement qu'autant qu'on l'a développée. C'est pourquoi aussi elle en appelle à une responsabilité. » C'est noté ça. La ressource en appelle à une responsabilité. Car on l'active ou on ne l'active pas. On peut aussi bien ne pas l'apercevoir, ou bien la voir et passer à côté. Je continue à citer. S'il y a donc ressource du christianisme, c'est qu'il pourrait y avoir un usage à en tirer, qu'il peut être source d'effet, sans qu'on doive se poser préalablement la question de sa vérité. Autrement dit, François Julien invite par là à explorer les ressources existentielles d'abord du christianisme. Et peut-être que ces éléments d'anthropologie que j'ai esquissés, avec l'interdépendance, la vulnérabilité comme vertu, l'attention aux capacités, pourraient être à penser et à vivre comme autant d'éléments de ressources d'une anthropologie existentielle. Les ressources s'offrent à qui veut les déployer. Des ressources n'existent qu'autant qu'on les fait fructifier. Quelle belle invitation de la part d'un philosophe qui se situe explicitement en dehors de la démarche de foi. Quelle belle invitation qui nous est faite à faire fructifier les ressources du christianisme comme les talents de la parabole, avec audace, simplicité et sûr d'être accueilli dans la joie du maître. Et c'est ce que je vous souhaite. Merci.
Un très très grand merci, Agatha, pour tout ce que tu nous as dit. Je retiens notamment ce que tu disais en commençant sur ta manière de travailler, ta manière de réfléchir dans la rencontre et parfois, j'imagine, dans la confrontation avec des personnes qui sont habitées par d'autres traditions que les nôtres. Et tu soulignais la fécondité que ça. Je pense que ça, c'est vraiment très précieux pour nous tous. Hein. Merci aussi pour cette manière d'aborder les questions anthropologiques avec cette grande attention, on pourrait dire, au climat, aux atmosphères dans lesquelles on baigne, qui s'accompagne en même temps d'une exigence pour vérifier les présupposés souvent implicites qui sont à l'œuvre et ce que ça peut produire. Quoi. Donc, un double mouvement d'attention et d'exigence. Merci beaucoup aussi pour ce retournement du thème de la vulnérabilité, puisque tu en fais, alors que spontanément on pourrait le penser comme quelque chose plutôt de l'ordre de la passivité, tu en fais une source de possibles nouveaux. Et puis, merci beaucoup pour cette invitation à revisiter nos sources et à y détecter les ressources qui, disons, qu'on peut déployer et qu'on peut faire fructifier. Voilà. Alors, maintenant, on a du temps pour échanger, pour poser des questions à Agatha, pour l'inviter à telle ou telle précision, ou pour réagir tout simplement à ce qu'elle nous a dit. Peut-être on pourrait prendre avant cela un tout petit temps avec votre voisin pour échanger vos impressions, 3-4 minutes, Ça permettra peut-être de vous aider à formuler vos questions. Et puis après ça, on... Voilà. Nous allons pouvoir donc entendre vos questions, vos remarques, vos commentaires. Donc, voilà, il y a déjà Alain qui.
Voilà, il faut bien qu'il y en ait un qui commence.
Merci Alain.
Bonjour Agatha, merci beaucoup pour ton exposé. Tu as parlé de vulnérabilité comme vertu, alors ça éveille évidemment mes oreilles. Mais qui dit vertu dit apprentissage, dit éducation, dit pédagogie. Tu pourrais nous donner quelques éléments pour penser ça? Ça nous aiderait aussi, nous, comme éducateurs et comme formateurs.
Est-ce qu'il y a d'autres questions semblables?
Merci beaucoup. Moi, j'avais effectivement aussi une question sur l'éducation en écho à la session de rentrée de l'année dernière sur l'utopie, où on avait beaucoup parlé à un moment donné de la session de l'école. Et moi, j'étais marquée dans ces interventions sur la place que pouvaient prendre des enfants handicapés dans l'éducation qui se voulait un peu différente. Et donc, ma question, c'était aussi sur comment éduquer à cette vulnérabilité comprise de façon positive comme ouverture et non toute puissance, mais en particulier peut-être plus précisément chez les enfants.
Voilà, merci beaucoup de votre intervention. J'ai une question, vous êtes enseignante à une faculté de médecine. Comment allez alors vous expliquer ça, la vulnérabilité aux médecins, aux futurs médecins qui sont quand même attendus d'être tout puissants ou au moins de faire le tout possible pour les malades, mais aussi pour les familles autour. Alors j'imagine des parents, des enfants malades qui vont dire aux médecins, mais vous ne faites pas tout ce qui est possible. Comment est-ce que vous enseignez cette vulnérabilité?
On va peut-être prendre encore la question de Henri, puis après on va laisser Agatha répondre.
Comme chrétien, la vulnérabilité nous parle beaucoup, mais pour des gens qui sont totalement étrangers au christianisme, en particulier ceux qui défendent une autonomie, une liberté radicale de l'individu, est-ce que vous parlez à des sourds ou qu'est-ce que ça touche en eux? Parce que nous, forcément, on est touchés et rejoints, ça nous donne à penser, mais pour eux.
D'accord, merci. Ben, on peut prendre l'exemple des médecins, hein. Justement sur ce terrain-là. Justement, dans la modalité d'éducation, d'apprentissage, je vais commencer par un exemple, on voit ce qu'on peut élaborer à partir de ça. C'est une chance et c'est très important d'avoir des étudiants en médecine qui, effectivement, dans l'imaginaire collectif ou dans l'imaginaire hospitalier de la formation dans laquelle ils sont, vont être mis du côté de la toute-puissance, soit parce que les patients vont les investir de la toute-puissance, soit parce que ils ont choisi ce métier pour sauver le monde et donc ils se sentent en apprentissage de toute-puissance. Il me semble que c'est justement dans ces moments-là qu'il est très important de leur faire relire leur expérience. S'il y a une pédagogie à ce niveau-là, ça va être une pédagogie de la relecture d'expérience. C'est-à-dire permettre à ces étudiants et aussi aux professionnels de santé qui ont déjà de la bouteille de prendre conscience qu'à certains moments décisifs de leur formation, de leur métier, il y a eu quelque chose de l'ordre d'un moment où ils ne savaient pas, où ils ne pouvaient plus, et que ça a pu transformer positivement leur rapport aux patients. Rares sont ceux qui n'ont pas vécu quelque chose de cet ordre-là. Alors, après, il y en a qui ne sont pas forcément demandeurs de relire ce type d'expérience, ou qui vont être plutôt dans une forme de rejet, de résistance à la relecture de ce type d'expérience. Mais quand on commence tôt, enfin, moi je vois vraiment chez des étudiants en quatrième année de médecine, ils ont fait quelques stages, ils ont fait leur premier stage, ce qu'on appelle un stage infirmier, donc là ils n'étaient pas en position de savoir, ils peuvent encore reconnaître qu'il y a eu des choses qui les ont gênés, qui les ont mis mal à l'aise, ils peuvent encore dire ben là j'ai pas su comment faire. Et valoriser ce qui s'est passé dans ce moment-là, c'est vraiment un des premiers éléments de pédagogie. Faire relire l'expérience et le fruit qu'il y a pu en avoir pour eux ou qu'il pourrait y en avoir pour eux. Un autre terrain d'apprentissage dans ce contexte médical de tentation de toute puissance, disons, c'est la place des émotions. Je suis très très étonnée combien de jeunes étudiants, donc là aussi troisième, quatrième année, sont déjà façonnés dans l'idée qu'ils doivent, alors comment ils disent ça, ils ont tout un vocabulaire, ils doivent se blinder, ils doivent se protéger de leurs émotions. Alors je leur dis, mais vous avez eu un cours sur les émotions, où est-ce que vous avez appris ça? Ils disent, ah ben non, mais c'est ce qu'on entend dans les équipes, dans les couloirs de l'hôpital. Donc faire travailler sur les émotions comme, alors je n'en ai pas parlé, mais nos émotions sont une des expériences tout à fait communes, courantes, que nous faisons de notre vulnérabilité. Mais, et là je vois j'ai cru voir que dans la salle il y avait des lecteurs ou des lectrices de Martha Nussbaum, par exemple, nous avons chez elle toute une lecture, et je dirais même une pédagogie de donner une consistance éthique à nos émotions, comme ce qui nous donne une information sur une situation, et comme ce qui va affiner notre regard sur une situation et nous ajuster dans notre manière de penser et d'agir par rapport à une situation. Il s'agirait d'une pédagogie de l'apprivoisement des expériences où bah, on ne sait pas faire, on ne sait pas tout faire, on est débordé, ou pas d'ailleurs par une émotion, parce que le grand cliché, c'est que nos émotions ne pourraient que nous déborder. Ben non, c'est pas vrai. Il y a comme, en tout cas dans ce milieu-là, qui justement peut-être un milieu qui est exposé à ce risque de la toute-puissance, du fantasme de toute-puissance, il y a l'idée que les émotions ne seraient que négatives. Une des modalités de l'apprentissage de la vulnérabilité comme vertu, c'est l'attention aux émotions dans ce qu'elles ont de... Comment dire ça ? Enfin, tout simplement qu'elles ne font pas que nous déborder. Sur l'accueil des jeunes, des enfants porteurs de handicap, je n'ai pas beaucoup de connaissances, d'expérience de ce type de situation, mais ce qui entre en jeu souvent, là, c'est justement ce double mouvement de donner et recevoir. Quand on peut recevoir d'une personne qui nous paraît plus vulnérable que nous-mêmes, là, on est dans une modalité relationnelle juste. Et non pas dans ce que je disais trop rapidement tout à l'heure, mais comme tentation de domination ou peur, qui peut être une des formes de revers aussi, ou une des formes de fuite de la relation. Bon, ce sont des indications. Mais de fait, la pédagogie, la vulnérabilité comme vertu et l'éducation à la reconnaissance de la vulnérabilité comme vertu, là, il y a quelque chose à continuer à penser, oui, tout à fait.
Merci, Agatha. Il y a d'autres questions encore ? Patrick et Bruno.
Merci beaucoup, Agatha, de ce que tu nous as partagé. Tu as évoqué à un moment donné, et c'était plus qu'un moment donné, c'est, je crois, tout le fil de ton travail, de ton attitude, cette philosophie de l'hospitalité, c'est-à-dire qui chemine. Puis tu as évoqué ce qu'on apprend, ce qu'on reçoit d'autres qui ne pensent pas comme nous, et du moment où les chemins peuvent se séparer. Tu peux donner un exemple dans les champs où tu travailles, de chemins qui se séparent et où pourtant tu reconnais avoir appris.
Oui, par exemple, je citais tout à l'heure Ruène aux Giens. Donc, vous savez, c'était la formule. Comment déjà ? Rien, ne pas nuire à autrui, enfin, rien d'autre, quoi. La formule en elle-même peut nous donner à penser. Est-ce que cela suffit, par exemple ? Et que répondre à quelqu'un qui dit ça ? Et je pense, enfin, je ne sais pas l'expérience que vous avez peut-être auprès de jeunes, d'adolescents, de jeunes. C'est une pensée très spontanée, cette pensée-là. Donc, la première chose, c'est d'être obligé de se coltiner cette pensée-là. Ne pas faire comme si certains ne pensaient pas comme ça. Et là, donc là où moi je me sépare de l'éthique minimaliste, c'est en disant cela ne suffit pas parce que cela repose sur le présupposé, il me semble que cela repose sur le présupposé que nous sommes des individus séparés et qu'un choix personnel n'aurait d'influence que sur moi. Je ne peux pas penser ça, je ne peux pas être d'accord avec ça. Alors du coup, ça m'amène à penser comment l'individu, quelle anthropologie je vais faire à partir de ça. Et d'où, par exemple, le terrain de l'interdépendance. C'est un exemple qui reprend un peu ça. Ou bien, alors j'évoquais aussi la lecture de Judith Butler, j'ai pas tout lu, mais il y a des choses qui me paraissent très intéressantes aussi sur la question de la vulnérabilité des minorités sociales. Et ça, ce sont des idées dont on peut aussi s'emparer, pas seulement sur la question du genre. Mais on pourrait se demander, je n'ai pas de réponse à ça, on pourrait se demander dans quelle mesure est-ce que ce que Judith Butler dit des minorités dans une société peut nous aider à penser l'accueil des migrants, par exemple. On pourrait se poser cette question-là. Peut-être on va répondre, oh ben non, en fait, non, ça ne nous aide pas du tout. Mais ça vaut le coup de se demander ça. Voilà.
Merci, Kataï. Il y avait Bruno Sainto qui voulait poser une question aussi.
Oui, merci beaucoup Agatha pour ton exposé et puis la manière dont tu le fais aussi, je trouve que c'est très pédagogique et je me mets à la place d'étudiants en médecine qui écoutent ça, je trouve que c'est très beau.
Je les emmène à l'hypermarché.
Et puis l'exemple de Monsieur B, voilà. Merci beaucoup. J'ai une question. On est même deux. La première, c'est une fois qu'on a mis des extrêmes, on a mis la toute-puissance d'un côté, on a mis l'incapacité de l'autre, il reste à penser le milieu. Et précisément, le milieu, tout ce que tu as évoqué là, dans la médecine, il y a l'enjeu de la technique. Alors, soit on ne l'utilise pas du tout, c'est l'incapacité, mais la technique, finalement, est un produit de la vulnérabilité humaine, on pourrait dire. Soit on est dans l'incapacité totale, on n'en veut pas du tout. Soit on dénonce la toute-puissance, mais une fois qu'on a dénoncé ça, qu'est-ce qu'on fait dans le milieu? C'est-à-dire que je trouve que c'est très opérationnel pour dénoncer des pensées radicales, comme celle de Augien, que j'ai aussi critiquée. Voilà. Mais en fait, nous avons à penser un usage raisonné des techniques. En fait, c'est tout le défi. Donc, j'entends bien, moi, la pédagogie entre vraiment l'autonomie comme indépendance d'un côté et puis la mise en jeu de la vulnérabilité. Mais nous avons à penser l'entre-deux, c'est-à-dire un usage raisonné des techniques aujourd'hui dans notre monde. Alors, ces catégories-là, elles peuvent nous aider. L'anthropologie, mais tu n'as fait qu'esquisser, évidemment, tu n'as pas le temps, elle peut nous aider comme point de repère fondamentaux. Mais nous avons à penser beaucoup d'autres choses, notamment dans le rapport à la technique, du point de vue d'une anthropologie, pour penser les usages raisonnés de la technique, le rapport au corps, comment dire, la qualité des relations humaines, l'unité de la personne, et puis aussi des critères de justice, voilà, me semble-t-il. Donc la dimension politique aussi, c'est-à-dire peut-on élaborer une anthropologie sans questions politiques, voilà. Et puis dernier point, et je m'arrête, c'est que il est vraiment important de montrer la vulnérabilité comme capacité, je crois, de plus en plus. Et en même temps, il me semble que là où le christianisme peut aussi apporter une ressource, c'est qu'il y a des moments où on ne peut rien. C'est-à-dire, il y a le tragique, il y a le stabat mater, finalement. On ne peut rien, ça n'a pas de sens. On se tient là devant l'inéluctable, on ne sait pas quoi faire. Et il y a une valorisation des possibles, autant il y a une manière de se tenir dans l'impossible, l'inéluctable, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire, il n'y a pas de sens, mais on se tient là. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là à penser ou à
ah oui,
manière de se tenir?
C'est très juste, mais je commence par ce dernier point. Oui, le tragique, oui, vraiment. Mais ce que le christianisme nous offre comme ressource, c'est qu'il est possible de se tenir là. Le stabat mater, c'est qu'il est possible de se tenir au pied de la croix dans ce qui paraît un non-sens absolu. Et ça, c'est un élément de discussion avec d'autres anthropologies qui vont dire « ça ne vaut pas le coup, c'est n'importe quoi de se tenir là. Je ne veux pas me tenir là. » Et nous pouvons dire « c'est possible. » Sur la question de l'usage raisonné des techniques, oui, ça reste vraiment à penser. Et notamment, moi je ne sais pas, à ce jour, articuler ces affaires de vulnérabilité qui rend capable avec les questions du transhumanisme, par exemple. Où se pose le juste milieu, c'est-à-dire l'usage raisonné des techniques. Tout ce qui devient aujourd'hui possible d'augmenter dans le corps humain, quel argument on peut se donner pour penser pas des limites, pour se demander même s'il faut penser des limites. Alors peut-être qu'en christianisme, on a aussi un art de penser les limites qui n'est pas répandu nécessairement ailleurs. Mais là, oui, je pense qu'on a pas mal de travail devant nous. Peut-on donner à penser... Alors là, c'est même plus que la vulnérabilité, comme j'en ai parlé, mais que la finitude humaine est une bonne chose. Comment tenir que la finitude humaine est une bonne chose, alors que nous avons justement, concrètement, de plus en plus de moyens de faire autrement que la finitude? Vous savez, alors par exemple, hein, s'il faut donner des exemples très précis... l'exosquelette. Donc, on peut se mettre dans une espèce de combinaison machine qui va décupler nos forces. Donc, quelqu'un qui est mis dans un exosquelette peut porter, par exemple, des choses extrêmement lourdes. Bon, ça, c'est un exemple presque mécanique. Dans un extrême de ce que nous propose la pensée du transhumanisme, alors là, ce n'est pas encore une chose techniquement possible, mais c'est la mort de la mort. comment on va se situer là. J'ai eu vraiment des discussions avec des étudiants l'an dernier, un groupe d'étudiants qui a fait un exposé sur justement la mort de la mort. Et à la fin de l'exposé, celui qui menait un peu l'exposé pose la question à un amphi qui était plein un peu comme celui-ci. Qui d'entre vous serait pour la mort de la mort? Moi, je me disais, n'importe quoi. Bah, ils ont été une majorité à lever le doigt. Ils ont 22 ans, 23 ans. Enfin, donc ça veut dire aussi quelque chose de l'âge auquel on a affaire, mais pas que. Ce sont aussi des apprentis médecins. Donc est-ce que ça veut dire que, pour eux, la perspective du soin, c'est de faire mourir la mort? C'est-à-dire de rendre les personnes... Alors, le vocabulaire, c'est pas le vocabulaire de l'éternité qui est forcément utilisé, mais... Et je me suis trouvée dans l'instant démunie à leur faire penser que la finitude et la mortalité n'étaient pas nécessairement une mauvaise chose. Voilà les choses qui sont à penser. Et il n'empêche dire que la mortalité... Essayer de penser que la mortalité n'est pas une mauvaise chose n'empêche pas que la mort reste quelque chose de tragique. Penser les deux à la fois. Et quant à la dimension politique, oui, elle est aussi urgente et devant nous. Dans les débats sur la fin de vie actuelle, il y a quelques années, ces questions, les débats tournaient autour de la notion de dignité. Aujourd'hui, les débats tournent autour, comme je le disais, de la notion de liberté, d'autonomie, du choix personnel. Peut-être qu'une des ressources, c'est aussi de penser une société de la solidarité et pas uniquement des droits individuels. Et un des enjeux, si nous pensons davantage une société de la solidarité, c'est de le penser pas seulement entre catholiques. Parce que je vois bien que dans certains débats, le mot de solidarité va être dénoncé comme étant... Ah, mais ce sont encore ces cathos tradis qui mettent en avant la solidarité. Donc si nous pensons une société de la solidarité, pensons-la, pas uniquement entre nous, mais avec d'autres, pour être crédibles. Par exemple, là, il y a vraiment un enjeu politique aussi, il me semble. Ah oui. C'est vrai. Oui. Pensons la fraternité avec d'autres. C'est vrai. Ne soyons pas timides. Oui.
Une question de Takao, tout au fond.
Merci beaucoup pour... votre conférence qui m'a beaucoup intéressé. Et ma question concerne la position de notre corps, la place de notre corporéité. Parce que vous avez tout au début de votre conférence de notre condition de finitude, donc ne pouvoir être qu'ici et maintenant. Et d'après moi, c'est une faculté par excellence de notre corporéité. Et le corps vit et ne peut vivre qu'ici et maintenant, alors que notre pensée, l'intelligence, la raison peut aller au Hawaï, au Tchad, vers le passé, vers le futur. Et en fait, le corps nous invite, nous permet, nous oblige même à nous mettre face à face, vis-à-vis avec un autre. Et donc, du coup, ma question consiste donc à savoir ce que notre corps, notre corporéité peut nous enseigner dans cette éthique de vulnérabilité et de d'autonomie interdépendance.
J'ai presque envie de dire qu'il peut tout nous enseigner. Alors, juste en vous écoutant, je me disais, oui, le corps, c'est l'ici et maintenant. Oui, indéniablement. Le corps, c'est l'histoire aussi. Le présent de notre corps porte en lui beaucoup de passé. Il faut faire avec ça aussi, pour le meilleur et pour le pire. Et puis, Et il y a cette très belle formulation, mais que peut le corps ? Qui nous met aussi du côté de l'ouverture des possibles. On peut l'entendre aussi comme ça. Nous avons beaucoup à apprendre du corps. Je ne sais pas si nous avons tout à apprendre du corps, mais nous avons beaucoup à apprendre du corps. Et là, la phénoménologue originaire que je suis ne peut qu'évoquer, par exemple, l'expérience de notre corps comme être au monde. Le corps, c'est ce par quoi nous sommes intrinsèquement ouverts sur autre chose que nous-mêmes. Ce que vous indiquiez d'ailleurs. Notre corps comme être au monde nous fait de nous des êtres relationnels, fondamentalement. L'expérience initiale même, de, ne serait-ce que de la perception, nous ouvre à plus que nous-mêmes. Nous pouvons penser notre corps en termes de transcendance, et cela est extrêmement précieux aussi, pour la pensée. Mais votre question ouvre un cours. J'espère que vous trouverez matière à continuer à creuser ça. Ou lisez Merleau-Ponty s'il faut que je fasse de la pub, mais...
Encore une...
Oui, moi j'aimerais bien vous entendre sur la question qui a été posée par Alain Thomassé, qui concerne la vertu. Je ne sais pas si j'étais distrait, mais je n'ai pas bien suivi votre réponse. Merci.
J'entendais la question d'Alain sur l'apprentissage, l'éducation à la vertu, et notamment si on va dans le sens de cette hypothèse que la reconnaissance de notre propre vulnérabilité serait une vertu, les éléments de réponse que je donnais, c'est une pédagogie de la relecture des expériences. Relecture d'expériences, alors... Je parlais des apprentis médecins, des étudiants en médecine. C'est leur faire relire leur première expérience auprès du patient et des moments où ils se sont sentis sans savoir ce qu'il fallait faire, sans savoir ce qu'il fallait dire. Et comment, à la relecture de cette expérience, ils peuvent trouver en eux des ressorts autres que juste le protocole du « il faudrait dire ». Ou il faudrait faire. C'est d'abord, pourquoi ils se sont sentis mal à l'aise? Qu'est-ce qu'il y a eu? Et puis, dans le fond, et je pense que vous voyez bien que mon affaire de vulnérabilité, ça nous mène vers ça, dans le fond, c'est est-ce qu'ils sont allés ou pas chercher du côté du patient les ressources pour eux trouver une parole, une posture plus ajustée? Donc, l'éducation à la vertu, la vulnérabilité comme vertu, dans ma perspective, c'est une éducation à davantage de relations, à l'attention à ce qui se joue aussi en face. C'est juste un élément, c'est pas une réponse complète. Faut que j'apprenne, moi aussi.
Encore une question de Julien.
Merci beaucoup pour vos paroles. Cette notion de vulnérabilité comme une capacité me semble particulièrement précieuse aussi à l'heure où les ressources de la planète s'épuisent et où notre sentiment de toute puissance crée des dégâts qu'elle a de plus en plus de peine à supporter. Je voulais vous demander, dans ce contexte-là, que dire de cette notion de vulnérabilité dans la perspective du genre ? Est-ce qu'il est possible que dans nos sociétés où sans doute les hommes mis en position de plus facilement de force et où il fallait toujours réussir, les femmes se voyant plus souvent dans nos cultures attribuées l'accès aux émotions, etc., et peut-être devant passer par d'autres chemins, est-ce qu'il est possible que les hommes aient plus de difficultés encore aujourd'hui à accéder à leur propre vulnérabilité, à y voir une chance, et du coup qu'ils aient peut-être dans nos sociétés à apprendre des femmes comment accéder à cette part plus refoulée d'eux-mêmes.
Julien, la réponse est dans ta question. Et je te remercie pour la réponse que tu fais. Non, spontanément, j'aurais dit c'est aux hommes de répondre. Je ne fais pas que taquiner, c'est vraiment aux hommes de répondre. Moi, je crois, alors là, c'est un point de vue, je crois que c'est vraiment une chance, l'époque où nous nous trouvons, même si c'est une époque difficile, en tout cas dans notre société, etc., etc., c'est vraiment une chance pour les hommes d'apprendre quelque chose de leur vulnérabilité. Il me semble, enfin, je me répète un petit peu, mais que c'est une chance pour une dynamique relationnelle. Mais c'est une... Comment dire ça ? Je crois que nous n'en avons pas fini d'apprendre les uns sur les autres, hommes et femmes, et que peut-être la période, le climat, comme dit joliment Étienne, est plus propice à cet apprentissage-là. Après, je ne sais pas si c'est très pertinent de faire aussi un lien avec la situation grave dans laquelle nous nous trouvons, dans laquelle l'Église se trouve actuellement et que Étienne évoquait tout à l'heure. Est-ce que là aussi, il n'y a pas une chance pour les hommes dans des instances de pouvoir dans l'Église, de pouvoir dans un sens très large du terme, de pouvoir institutionnel, d'apprendre. Alors là, pour le coup, il y aurait vraiment une question d'éducation à la vulnérabilité dans l'Église. Est-ce qu'une des façons de lutter contre ce que le pape François appelle le cléricalisme ne serait pas une des modalités, avec bien d'autres, d'éduquer à aimer la vulnérabilité, sa vulnérabilité. Peut-être qu'on a un moment où il y a une chance de ce côté-là. Et cela, je crois, ne se fera que lorsque hommes et femmes dans l'Église s'y mettront ensemble. Il me semble. C'est peut-être, c'est dit facilement comme ça à une tribune, c'est peut-être un peu utopique, mais peut-être qu'on est à un moment où on peut avoir cette chance-là.
On va prendre une dernière question avec Jean-Paul, tu voulais poser une question aussi, toi ? Alors, je pense qu'on n'a plus que le temps que pour une question, en tout cas. Ouais.
C'est une question un peu sur la manière de penser une anthropologie. Alors merci, comment vous nous l'avez présenté. J'ai beaucoup aimé le lien avec votre expérience concrète de Monsieur B, là, par exemple, couvre les yeux sur une vulnérabilité concrète dans un état un peu limite et qui permet de venir mettre du trouble dans notre manière de prendre l'autonomie. Je prends volontairement le mot trouble parce que j'ai l'impression que dans le travail de Butler dont vous parliez, justement, c'est aussi un point de départ, de partir un peu des marges, et puis d'essayer à partir de ça, de mettant un peu de trouble, de repenser l'homme et la femme, ou autre chose que l'homme et la femme. Et je voulais vous demander un petit peu comment on fait pour penser à partir des marges comme ça. Je pense que le pape François aimerait bien ça, il parle de partir des marges, remettre les périphéries au centre, ça, de quelque chose sans doute d'une intuition chrétienne. Mais on voit aussi que ça peut entraîner sur des manières de construire des anthropologies qui sont un peu qui peuvent être déroutantes. Enfin, le travail de Butler. Là. Comment est-ce qu'on fait du coup pour fonctionner de cette manière-là pour bâtir une anthropologie ?
Je ne peux pas faire une réponse comme ça en vous donnant une technique, mais ce qui me vient à l'esprit en vous entendant, c'est peut-être. Osons nous laisser troubler, pour reprendre cette expression-là, osons nous laisser troubler, c'est une autre manière de dire peut-être ce que j'essayais de dire tout à l'heure, osons nous laisser troubler par ces pensées qui nous semblent aux antipodes des nôtres. Là aussi, il y a une vulnérabilité de la pensée dans cette expérience-là, mais comment peut-on penser quelque chose comme, on a souvent une part de réaction, notre pensée réagit aussi, parfois de façon spontanée, sur le mode du rejet, de la fascination, de l'éclat de rire, parfois. Mais nous laisser troubler, oser nous laisser troubler. Mais je pense vraiment que les études que vous faites vous donnent les conditions de possibilité, j'allais dire, pour pouvoir se laisser troubler sereinement et pouvoir penser quelque chose à partir du trouble et dans la foi. Je ne peux pas faire de donner de réponse méthodologique ou une théorie, mais invité à cette expérience-là. Et il me semble, avec l'assurance de ce que peuvent produire les études de théologie au Centre Sèvres. En tout cas, j'en ai fait l'expérience. Enfin, moi, je peux que vous inviter. Alors, je ne vais pas vous dire comme ça, laissez-vous troubler, mais oui, si, quand même, pourquoi pas. Et trouver votre assurance dans ce qui vous est donné pour pouvoir penser librement aussi à partir de ce qui trouble la pensée, voire de ce qui peut troubler la foi aussi, parfois. Mais les ressources sont là. Les ressources de la foi pour tenir aussi dans la pensée et dans la foi sont là.
Merci encore. Très, très grand merci, Agatha.
Merci à vous.
Merci d'autant plus que, comme tu l'as rappelé, tu n'as pas eu beaucoup de temps pour préparer ton intervention. Hein. Quelques petits mots pratiques maintenant. Nous avons plusieurs rendez-vous aujourd'hui. Je commence par les plus éloignés. Les étudiants du premier cycle, vous vous retrouverez ici même, dans cet amphithéâtre, à 14h. Quant aux enseignants, nous nous retrouverons en salle Michel de Certeau à 14h30. Voilà. Et avant cela, nous nous retrouvons dans l'église Saint-Ignace à midi. Comme ça, on commencera l'Eucharistie à 12h05, qui est son heure de commencement. Mais en étant à midi là-bas, ça permettra de commencer pile à l'heure, parce que sinon, on sera un petit peu short au point de vue time. Voilà. Donc, excusez-moi pour mon franglais. Je vous rappelle que... oui. Voilà, on peut... Donc, on a un bon temps de pause maintenant. Pour le repas, ça se passera en salle de Lubac et Sommet. Donc, c'est les salles juste en sortant de l'église, les premières salles dans lesquelles vous tombez en sortant de l'église. Mais avant ça, je vous rappelle qu'on a rendez-vous dans le jardin pour ce temps de bénédiction. Voilà. À tout à l'heure.